Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Pour la troisième année, nous vous proposons cette formule d'émission qui nous permet de revenir sur des séries en cours qu'on suit régulièrement et qu'on apprécie beaucoup. Et cette année encore, on vous a demandé un coup de main pour choisir celles qui seront au cœur de ces deux émissions des mangas à suivre. On a donc organisé un sondage en vous proposant une dizaine de séries seulement cette année. C'était un peu plus réduit que l'année dernière, par exemple, où il y en avait le double. Et chacun des votants avait jusqu'à 6 choix à faire et vous avez été plusieurs centaines à voter. Merci, merci beaucoup d'avoir donné votre avis, d'avoir choisi le contenu de ces donc deux émissions. Nous avons nos 6 gagnants. Et il s'agit de numéro 1, avec un vote de près de 70% des votants.
Putain, c'est énorme, énorme.
The Bungle Call.
Ah, voilà le banger, je le savais, je le savais.
Les gens t'ont suivi, Johnny, ils attendaient avec impatience.
Putain. Le pire, c'est qu'il a même pas eu besoin de venir présenter l'émission non. Comme nous, on l'a fait la dernière fois, tu vois, pour défendre notre...
Il a dit non, franchement, moi,
non, c'est le banger, il a pas besoin de moi, le banger.
À force de dire banger, je pense que les gens, ils veulent juste savoir.
Deuxième, Journey Beyond Heaven, 60% des votants, 60% des votants, 6 sur 10. C'est beaucoup et je pensais pas que encore.
Bah oui, parce que vous l'avez déjà fait.
Bah on l'a fait il y a 2 ans, mais.
Je sais pas, juste suivez, arrêtez de qu'on fasse des émissions dessus.
Eh bah si, on va le faire la semaine prochaine. Troisième, Tsugai, 55%, puis après il y a un gap. Nous avons donc Full Night, 44%, Akane Banashi, 38%, et dans le sens du vent nord-nord-ouest, 38% également. Et donc aujourd'hui au programme, le numéro 1 de ce classement de Bugle Call, alias.
Le Claironga.
Ouais.
The Banger Call.
Du manga dans le sens du vent et d'Akane Banashi. La semaine prochaine, il y aura donc Journey Beyond Heaven, Tsugai et Full Night. Nos mangas à suivre, c'est maintenant et c'est dans la cinquième de couve.
On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards. Oh, this you crazy mother...
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas sur la longueur. Salut tout le monde, salut Johnny, salut Cagnard. Content de pouvoir enfin reparler de Bugle Call.
Salut les coquinous, bah oui, le banger. Banger 2024 qui sera certainement le 2026.
Bah, moi je savais d'avance que Bugle Call allait y aller. C'est vrai que c'est vraiment la série que j'aime beaucoup suivre. Pour le coup, c'est l'une des rares séries où je suis à chaque sortie de tome, tu vois.
Et sur nos réseaux, de toute façon, on voyait tellement de gens qui nous disaient « Quand est-ce que vous reparlez de Bugle Call ?» qu'on avait quand même un doute très très probable qu'il arrive dans les 6.
Même nous, vis-à-vis de toi, on t'a demandé plusieurs fois, avec, tu sais, en se resserrant les doigts, quand est-ce qu'on peut reparler de Bugle Call, s'il te plaît, Maxime?
Après, il a pas une sortie de ouf, hein, il y a que 8 tomes là.
En 2 ans, ouais.
Ouais, il faudrait qu'il...
Bon, ça fait 4 tomes par an, ça va, hein, quoi.
Bah non,
plus
ça
que
va
correct.
Pas assez, hein.
Le mec en veut plus. Si vous nous découvrez maintenant, merci d'être là à l'écoute de la cinquième de couve, le podcast Manga Hebdo. Donc, si ce sujet vous plaît, si les mangas à suivre vous plaisent, eh bien, vous pouvez aller écouter ceux de l'année dernière ou ceux d'il y a 2 ans, scroller un peu. Il y aura toujours une émission pour vous. Puis si vous aimez ce qu'on fait, surtout, laissez un commentaire, une note, partagez l'épisode. Et on veut savoir aussi quel manga vous suivez avec intensité en ce moment, même si c'est pas dans notre sélection. Aujourd'hui, on a donc 3 mangas à passer dans l'émission, puis on pourrait évidemment faire une heure sur chacun, si ça tenait qu'à à chacun des personnes qui ont choisi de mettre ces mangas dans les mangas à suivre. Donc attention, en revanche, ça va spoiler sévère sur chacune des séries. Nous, on est à jour et on a besoin de parler en étant à jour. Donc on est obligé à un moment donné de dévoiler certaines intrigues, d'avoir des théories, d'aller un peu plus loin. Donc sur The Bugle Call, on est à jour sur 8 tomes, le 9 sort là très très vite, hein, donc
16 avril.
Le 16 avril exactement.
Même trop à jour vu qu'on l'a déjà lu, mais on va pas vous le dire.
Toi oui, nous non.
Ah bah c'est con.
Dans le sens du vent nord-nord-ouest, c'est 7 tomes, donc là aussi on est à jour. Et puis Akane Banashi, on est à jour sur 13 volumes alors que le 14 arrive. Et le 8ème tome dans le sens du vent nord-nord-ouest, il est pas encore annoncé, donc... un peu de patience, surtout qu'il est sorti déjà il y a un an, le tome 7.
Et en vrai, il y a un truc qui est bien dans cette tomaison, Bugle Call tome 8 et Akane Banashi tome 13, c'est que ça finit à chaque fois sur quelque chose d'une histoire, genre une sorte d'arc.
Ça tombe bien.
J'ai trouvé ça assez incroyable de se dire ah bah tiens, au moins le tome 13 il finit, il clôture quelque chose, et Bugle Call tome 8 il clôture quelque chose.
Exactement. Et donc on commence donc avec The Bugle Call aux éditions Kiun, 8 tomes. Attention, je vous le répète, on va spoiler tout de suite maintenant The Bugle Call. Avancez de 20 minutes si vous voulez passer dans le sens du vent, ou dans 40 minutes si vous voulez passer à Akane Banashi. Directement, vous avez les chapitrages hein, en commentaire, dans les articles, sur le blog ou même sur YouTube. Tout est en ligne normalement au niveau du chapitrage et même sur Spotify. C'est un chapitrage automatique, mais normalement, il est bon. The Bugle Call, donc, je vous refais pas le pitch, puisque si vous êtes avec nous, vous savez que ce manga est un manga excellent, qu'il s'agit de X-Men psychopathe dans un Moyen-Âge en Europe, plus précisément en France, puisqu'on va en Gallia, on va à Limoges, on va au Mont-Saint-Michel, on est en France, monsieur.
Alors, à chaque fois, il n'y a pas marqué Mont-Saint-Michel. C'est le Mont-Tombe, c'est Germania, Gallia.
Oui, mais Limoges, c'est écrit.
Non, mais et Normandie. En fait, au bout d'un moment, quand il a dit Normandie, je me suis posé la question et j'ai fait, mais du coup, est-ce que c'est juste un style qu'il veut donner en se basant sur quelque chose d'historique, mais on est dans une fiction ou pas? Et en fait, avec le Mont-Tombe, je me suis dit, bon, bah non, il doit y avoir quelque chose avec le vrai monde dans lequel on vit actuellement et qui le transpose autrement. Mais c'est vrai que j'avais ce doute de, est-ce qu'il s'inspire de notre monde pour faire un monde fictif ou pas? Sachant qu'en plus, dans la jaquette, il y a un des scénaristes qui dit, j'adore les fictions historiques. Je dis, ok, merci. Merci de nous avoir transmis ça.
Mais est-ce qu'on est dans le vrai monde? J'en sais rien.
Bah, on sait pas.
On n'en a aucune idée. Est-ce qu'on est quand même avec des sortes de X-Men, quoi? On a des gens qui ont des pouvoirs de mutants, quoi. Ouais.
Et encore, hein, tu parles de X-Men, mais les protagonistes ont des histoires bien plus dramatiques que celles des X-Men.
Bah,
ça se passe plutôt pas mal du côté de les X-Men. La plupart du temps, ils sont juste rejetés par leurs parents. Alors que là, c'est rejet, torture psychologique, torture physique et compagnie.
The Boys.
Oh non, même The Boys. Il n'y a pas de passif comme ça dans The Boys.
Et puis même les pouvoirs qu'ils ont, ceux qui ont des pouvoirs sont appelés des branchus parce qu'ils ont une branche qui leur pousse sur le crâne. Donc déjà, c'est un élément visuel que tout le monde voit chez toi quand tu te balades dans la rue. Donc forcément, tu vas être encore plus rejeté puisque tu ne ressembles pas aux autres. Et qu'en plus, tu apparais comme dangereux, quoi.
Bah, et encore, hein, même ça, tu vois, je trouve que l'auteur, il nous laisse un peu dans le flou parce que on arrive dans le manga et on nous annonce oui, je vais dévoiler l'existence des branchus à la société. Et t'es là, bah, ça tombe vachement bien qu'on arrive à ce moment-là dans le manga. Mais alors que tu sais, dans l'autre empire, là pour le coup, tout le monde est au courant qu'il y a des branchus qui existent. Alors certains sont réduits en esclavage et compagnie, mais du coup, on est dans un flou. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce manga. On est dans un flou qui te donne envie de poser plein de questions. Et te demander, mais enfin, tout fonctionne, tout est vachement bien aligné pour un truc de fantasy, tu vois.
Mais t'as tellement de questions quand tu lis ce manga. C'est ça qui fait qu'on est aussi passionné dessus. Et il y a un personnage, moi, qui m'a scotché parce que le monde, la ville de Limoges en l'occurrence, le pays des miroirs, et le personnage en lui-même, son pouvoir, comment elle a industrialisé son pouvoir, c'est la miroitante. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage? Moi, j'ai été scotché de A à Z par le charisme de cette femme, par son histoire qui m'a laissé scotché aussi, le fait que ça soit une guerrière si puissante, et vraiment toute l'astuce autour de ses pouvoirs.
Bah, je pense qu'on avait déjà parlé au tout début dans ce top 2024, mais c'est vrai que moi j'avais eu l'impression que la miroitante c'était déjà le big boss de tout le manga. Bah, t'es vraiment trop forte, son pouvoir était incroyable parce qu'en plus elle le maîtrisait à la perfection, et je me suis dit mais comment tu peux faire d'autres antagonistes alors que t'as la miroitante en face. Et j'avoue, et je pense que c'est pour ça que le tome 1 à 4 était assez incroyable et qu'après ça s'est un peu retombé comme un soufflet. Heureusement après ça repart, mais moi je trouvais que la miroitante c'était un des meilleurs boss que j'avais vu.
Bah c'est comme dit Joe, c'est un des premiers mid-boss en fait, parce que t'as déjà vu pas mal d'affrontements jusque là, mais il y a eu beaucoup d'affrontements par armée aussi, et là t'as vraiment un boss. Et je me demande même si les auteurs se sont pas servis de ce personnage pour montrer un petit peu tout ce dont ils étaient capables en termes de mise en scène, parce que là effectivement son pouvoir il est tellement puissant que c'est même pas elle qui est puissante, c'est ça, elle est utile au fonctionnement général de la cité.
Mais elle a créé, elle a créé une cité, quoi.
Elle a créé une cité et en même temps...
Bah, elle défonce une... Enfin, c'est...
Et tout est organisé autour de son pouvoir. Et au début, tu te dis, oui, bah, ça va être juste quand même. Là. Elle est toute seule. Alors, OK, il y a plein de miroirs partout, mais ça va être compliqué. Et en fait, il y a plein de trucs très astucieux, très ingénieux dans l'utilisation de son pouvoir. Et ce qui est le plus important, je trouve, dans ce perso, c'est son histoire, son background, qui fait que tu réussis à avoir une espèce de... pas d'amour, mais parce que c'est un personnage que je trouve cruel dans sa manière d'être, même avec son faux enfant, on va dire. Et en même temps, c'est un personnage qu'on comprend. C'est quand même une mère qui a perdu sa fille et tout. Et du coup, ça en fait un personnage dès le début très comment dire. Tu l'adores parce que elle est ultra puissante. Ça marche super bien humainement. C'est pas ça, mais en même temps, tu peux comprendre. Et en même temps, je pense que c'est un principe de narration qui est très utile pour montrer toute l'étendue de la force de Zoé, en fait. C'est pour moi, dans la phase de la miroitante, ce que j'ai le plus retenu, au final, c'est Zoé. Parce que Zoé, elle, il n'y a rien de normal. C'est pas normal qu'elle soit aussi forte que ça. C'est pas normal qu'elle ait encore un comportement d'enfant. Ah bon, après, ça a trait avec son pouvoir. Mais c'est au final, tu as plus sur elle que moi, j'ai mis le projecteur. Genre, putain, il est fou ce perso quand même.
Et pour ceux qui écoutent l'émission et qui ont envie de se faire spoiler sur Bugle, call. Donc la miroitante, c'est une personne qui a un pouvoir d'utilisation des miroirs, tout simplement.
Ce qui n'est pas original
juste...
de fou.
Non, ce qui n'est pas original, soi. Mais donc du coup, grâce à son pouvoir d'utilisation des miroirs, elle peut faire passer des choses d'un miroir à l'autre. Donc elle a mis en place tout un système de
défense, de boulettes
tuyaux,
canon.
De boulettes canon, faut imaginer un monde genre Mario avec des tuyaux, mais sauf que c'est des miroirs de chaque côté. Quoi.
Mais Portal, le jeu vidéo.
Oui,
mais
sinon,
tu parlais de la mise en page. Et c'est vrai qu'avec la miroitante, le dessinateur a fait une mise en page qui est, au début, tu comprends pas, mais parce qu'il casse vraiment les cases. Il n'y a pas de cases. Il y a vraiment des personnages qui déforment ta page et qui te brisent la page, et tu le vois quand il bouge, quand il met sa main dessus et on dirait qu'il déchire la page. Et au début, tu piges pas trop, tu fais... Est-ce que j'ai un problème de vision ? Et il le réutilise avec un autre pouvoir après dans le tome 7 ou 8 avec la gravité. Et j'avoue que les auteurs, ils se font plaisir là-dessus parce qu'en fonction du pouvoir, ils vont te modeler ta page et ton dessin. Et j'avoue, ça, c'est un truc que j'avais pas vu avant.
Bon, maintenant, parlons d'un autre personnage qui a pas un pouvoir à part d'être puissant comme Zoé, effectivement. Akira. Parlons d'Akira. Il y a un personnage dans ce Moyen-Âge français, franco-germano, français, Gallia. Il y a un personnage qui arrive qui s'appelle Akira. Déjà, bon, nous, en tant que lecteurs de manga, on bloque un peu, fait Akira.
C'est clair.
Akira. Très bien.
Faut oser le porter.
Ok, allons-y. Le mec est ultra fort.
Mais sachant qu'il n'a pas de pouvoir.
Ouais. Il n'a pas de pouvoir, il est juste ultra fort.
C'est pas un branchu.
Effectivement, il n'a pas de branche.
Ou peut-être que c'est un ancien branchu. Bah,
en vrai, il n'a pas de branche. Et il a dit que je ne suis pas comme vous. Enfin...
Et il a une fille qui fait tomber des météores sur la Terre.
Oui, bah, on est beaucoup plus intéressé par sa fille. À la base, genre, c'est quoi ce pouvoir de dingo encore? Elle peut faire tomber des météores. Sauf que la population, ils savent pas ce que c'est des météores parce qu'ils sont à l'époque médiévale, tu vois. Donc ils savent même pas ce que c'est.
Mais non, mais de toute façon, ce duo, il est trop chelou parce qu'ils sont vraiment, psychopathes à 2000%. Genre le mec, déjà, il apprend à sa fille, mais non, mais tu peux tuer parce que t'es en service militaire.
Ouais, t'es en service.
Genre, t'as le droit. Enfin, c'est normal.
Et même ça, c'est malin parce que la même histoire, il raconte une histoire à sa fille pour lui dire mais oui, si on a le droit de tuer. Et la même histoire derrière est racontée
par le mec du sang, là.
Mais par un autre biais. J'avais trouvé ça hyper hyper mignon.
Mais Akira, pour le coup, moi, ce qui m'a surpris, c'est que dès le départ, il a cette... Alors, je sais pas si c'est un problème de traduction, mais il dit un truc où à un moment il dit les gens de cette époque. Et moi, je suis resté bloqué sur la phrase qu'il a dit, ce qu'il a dit, parce que je me suis dit. Non, mais il y a quelque chose.
Je vois pas comment un lecteur peut arriver sur cette phrase en se disant « Non, mais c'est normal, les gens de cette époque. Bah, » ouais, non, les gens de cette époque. Non,
on parle d'époque à toutes les époques.
Non, mais
après tout.
Moi, parfois, j'arrive à dire « Ah, oh, les humains, ils sont trop chiants. » Mais je suis humain aussi. Ou alors, j'ai fait « Ah, à notre époque, tu sais. » Mais toi, c'est un peu une blague. Et du coup, j'arrivais pas à savoir si c'était une sorte de flou, de traduction. Genre, c'est une expression pour dire « les gens de cette époque » ou si vraiment il y avait un truc. Mais sachant qu'il y a les tours et tout ce qu'on a déjà vu dans le tome 1 et 4, ça nous titille.
Non, mais il y a un million d'éléments qui nous font penser que à un moment donné, j'espère pas trop tôt, il va y avoir un twist bizarre de En fait, c'était un rêve. En fait, vous êtes dans un univers parallèle. En fait, on est dans un isekai. En fait, je sais pas.
De toute façon, c'est plus trop de la fantasy, pour le coup, j'avoue.
Mais c'est ça qui est marrant. Je trouve que l'auteur, il s'évertue vraiment à nous faire croire que c'est de la dark fantasy un peu originale, tu vois, avec des pouvoirs un peu originaux. Mais on n'est pas dupes, hein. Tu nous as prévenu dès le tome 1. À chaque fois, il mettait un petit indice de « Ah tiens, il y a des objets qui débarquent qui ne sont pas du tout de la bonne époque. » Mais je trouve ça limite marrant qu'il continue à dire « Non, mais vous inquiétez pas, c'est de la fantasy, tranquille. » Et t'es là « Bah non, mais on se doute bien là. » Moi, j'avoue que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de la révélation.
Alors, moi, j'ai peur, et donc deux solutions pour faire face à ma peur. Soit il termine le manga assez vite, il fait une tomaison pas trop énorme, et tant mieux. Soit il garde le twist vraiment pour la toute fin, et puis comme ça c'est la fin, c'est fini.
J'ose espérer, moi dans un monde idéal, j'imagine que le twist ouvrira, on va dire, une deuxième partie de manga s'ils doivent changer d'époque.
J'ai trop peur de pas aimer cette deuxième partie.
Ouais. C'est ça. C'est un peu.
Je suis un peu comme Cagnard, mais tu vois, c'est un peu la révélation, l'attaque des Titans. Tu vois, ils sont sur une île et puis en fait, il y a un autre monde. Et au final, l'autre monde, il a bien réussi à le mettre en scène. Donc, j'espère qu'ils vont faire pareil pour The Bugle Call. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est un peu en expectative. Et c'est vrai. Voilà.
Parlons des clones. Les clones, Légion. Le branchu Légion, c'est encore une fois une des meilleures idées et loin d'être la plus originale, mais c'est une des meilleures idées de ce manga, je trouve. Que ça te rythme toute une partie, tout un arc. Et t'es totalement accro à cette idée du branchu Légion qui crée des armées entières de lui-même.
C'est même pas des armées. Je pense qu'à un moment, il met des numéros de naissance et il y a un mec, il a le numéro 4 600 000 quelque chose. Et j'ai fait, mais 4 600 000. Il a fait 4 600 000 clones. Parce qu'en fait, le problème de ce Légion, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est que tant qu'il a des cheveux, à la limite,
il peut continuer
à faire des clones. Mais il peut faire des clones avec n'importe quoi. Son sang, sa peau, ses ongles, ses trucs. Et du coup, tant qu'il reste vivant et qu'il arrive à cultiver son corps, et ben, il y aura des clones. Et il est déjà à 4 600 000. Et j'ai fait, vas-y.
Mais c'est génial comme idée, j'adore.
Ce pouvoir. Alors effectivement, t'as raison, Max. C'est pas spécialement original. D'ailleurs, il y avait déjà un perso dans My Hero
Tout le moment où on fait... Il y a un moment dans le manga où on est vraiment sur sa backstory, comment il va pas bien, comment il se sent mal par rapport à ses clones, etc. Ouais. J'ai tellement vu l'arc des vilains dans My Hero Academia.
C'est marrant parce que du
c'était
coup,
parallèle,
ce,
quoi.
Ce pouvoir, moi, je l'ai plus référencé au comics Invincible de Robert Kirkman. Excellent comics, excellent animé aussi, n'hésitez pas à aller le regarder. Où il y a un personnage qui s'appelle Duplicate. Et elle a exactement ce pouvoir et il y a vraiment ce truc de... En fait, faut pas se dire que c'est facile de faire un pouvoir juste de duplication, je sais pas si ça se dit comme ça, parce que en fait tout le principe c'est que tu vas partir d'une énorme masse, mais que tu vas toujours devoir la ramener à une personne individuelle, c'est-à-dire comment la personne qui bénéficie de ce pouvoir vit ce fait d'être compartimenté, parce que là en plus tous les clones ont la mémoire du perso
au moment où il le crée.
Au moment où il le crée et au final, il a hyper bien géré ce moment-là, parce que on passe d'un ennemi qui est surpuissant vu le nombre des persos qu'il y a, à finalement du carrément individuel où on revient à lui. Même lui, il est chelou. Lui, il est allé trop loin. Tu vois, il finit par coucher avec ses clones qui déguisent en meuf en les appelant maman. Tu étais là, mais arrête, ça suffit. Tu vois, mais même lui. Il est un peu touchant là-dedans aussi.
On est au Moyen-Âge, Cagnard, hein. Tout est possible.
Oui,
à cette
c'est
époque.
Vrai qu'à l'époque, c'était compliqué, mais on en arrive à un truc très où au final, tout ce qu'il voulait, c'était un ami. C'était quelqu'un qui... En fait, il a été tellement maltraité, comme beaucoup de personnages dans cette série, que exactement, il y a ce truc qui est très proche de My Hero aussi, c'est la fille d'Akira qui lui a donné de l'amitié à sa manière. Hein. Elle lui a pas dit « tu seras mon ami pour la vie ».
Elle dit « tu seras mon copain ».
Ouais, vraiment, c'est vite fait. Quoi.
Mais je voyais vraiment le parallèle avec Himiko qui lui donnait du courage. Tu vois, je sais pas,
et chez les vilains, il y a ce... Mais très... Et en plus, mine de rien, tu vois, les auteurs partent sur ce truc. Donc voilà, on va avoir Légion, il peut créer plein de personnages plein de clones, et mais il a quand même décidé de pousser, parce qu'au final il allait chercher les 2-3 qui étaient un peu différents.
Oh, ils sont pas que 2-3, hein, il y en a
oui,
beaucoup.
Non, mais, oui, non, mais en fait c'est parce que ça démarre avec eux que ça se répand vers tous les autres
clones. Et là j'ai vu des échos à Star Wars aussi. Il y a la guerre des clones.
Ah oui, la guerre des clones. Et ça, j'avoue que c'était vachement bien parce que tu les retrouves dans le manga. En fait, ils te donnent ça. C'est limite. Bon, je reparlerai après des histoires de fin qu'il y a à la fin de chaque tome. Mais t'as des histoires qui démarrent dans ces petites histoires de deux pages de fin de chapitre. Tranche de vie, c'est ça. Et tu retrouves les clones après dans l'histoire principale. C'est comme si on t'avait montré un filler et que finalement, le filler, non, il a vraiment une place à prendre dans le récit. Et ça, je trouve que c'est magique.
Non, mais parle-en maintenant des histoires de fin, parce qu'il va falloir qu'on.
Et puis, surtout, il y a une grosse différence, c'est que si les gens meurent, les clones restent vivants.
Oui, c'est vrai.
C'est une grosse différence par rapport à MHA, par exemple, où il n'y a plus de pouvoir. Quoi.
Tu parles de quoi, du coup, des jaquettes ou des petits bonus?
Non, les bonus tranches de vie.
Je parlais justement... Joe, il parlait de l'attaque des titans, et c'est évidemment un titre qui me fait beaucoup penser à l'attaque des titans, vu le nombre de mystères qu'il y a un petit peu partout. Mais la chose que je rapproche le plus de l'attaque des titans, c'est l'humour, au final. Parce que je trouve que le manga n'est pas à mourir de rire. Vous serez d'accord avec moi pour dire que l'attaque des titans n'est pas à mourir de rire. Par contre, à la fin de l'attaque des titans, il y avait les fausses bandes annonces des prochains tomes, où il se passait des trucs qui n'arrivaient jamais dans le manga. Et là, par exemple, sous la jaquette, t'as à chaque fois, je trouve ça à mourir de rire, donc t'as la jaquette, un perso badass sur un trône ou autre, et quand t'enlèves la jaquette, tu vois le making-of de cette jaquette. Donc t'as la personne qui est en place sur le trône, et t'as un assistant caméra, un assistant lumière, et qui est là, on la garde, elle est bonne. Et tu vois, c'est pas le même humour qui était full absurde que dans l'attaque des titans, c'est plus de l'humour méta, et qui correspond encore mieux, je trouve, à tout ce truc où on comprend pas, genre il y a des objets modernes et tout, là ils sont... Juste le principe de faire des mises en scène de jaquettes, je trouve ça trop drôle. Je trouve ça vraiment trop drôle, et à chaque fois je les regarde et à chaque fois je me marre.
Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est celle où. Pardon, ce qui m'a fait marrer, c'est celle qui. Au moment où elle fait bon, le décor derrière, on mettra de la CGI.
Oui,
c'est ça. Et t'as Lucas et Zoé qui font CGI. J'avoue, ça me fait.
Parlons de Lucas un petit peu. Lucas qui doit être le personnage le plus triste, j'ai l'impression, de tout ce manga. Il a un spleen qu'il traîne tout le temps. Il commence à avoir des rêves, il commence à aspirer à des choses. Mais qu'est-ce qu'il est déprimant, qu'est-ce qu'il est dépressif. Même Eren, il est joyeux à côté de lui, quoi.
Mais c'est Eren, dans le sens où, encore une fois, c'est un personnage qui est là pour jouer le rôle du lecteur, c'est-à-dire de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, et c'est le cas de Lucas aussi, sauf que Eren est très énervé, et Lucas, il est plus en mode spleen.
Il est blasé, il s'est porté par l'histoire.
Il est blasé, mais qu'est-ce qu'il est talentueux, en revanche.
Après, il est plus jeune, hein. Il est vraiment très jeune.
Il est très jeune, mais le gap qui fait en termes de niveau de comment il arrive à commander et comment il prend goût au commandement et il prend goût au pouvoir qu'il a, je trouve que ça lui donne aussi un côté pas si pur que ça,
temps,
tu vois.
En même temps, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il y a que le merde, comment il s'appelle, le mec, la clarinette, là. J'ai pas son nom, mais celui qui dirige la tour, le pape, voilà. Il y a que le pape qui comprend qu'en fait, son pouvoir, c'est de lobotomiser les gens. Lui, il le comprend pas, Lucas, hein. Il comprend pas. Lui, il croit qu'il donne de la force et qu'il les dirige, mais il y a que le pape qui dit ah ouais, Lucas, il voit pas qu'en fait il est en train de lobotomiser les gens.
Bah le moment où il fleurit, le moment où il passe en super guerrier,
il est out.
Et alors il est out, mais tu vois la puissance potentielle de son pouvoir, contrôle des masses. Ouais. Là aussi, c'est fort.
Puis tu vois, ils l'ont quand même creusé, parce que évidemment le statement de base, c'est genre je suis dans l'armée et je fais suffisamment de missions, tu me donneras ma liberté pour que je devienne enfin trompettiste, ménestrel, pardon. Ménestrel, comme si c'était un vrai métier. Mais en même temps, derrière, ils vont chercher un petit peu plus loin, parce qu'on lui explique, oui, mais en fait, t'es vraiment talentueux pour diriger, t'es un fin tacticien. Et même lui commence à se poser cette question de, oui, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est de la musique avant tout? Ou est-ce que, mine de rien, tacticien, il a l'air d'y prendre goût aussi maintenant?
Ouais, sachant qu'en plus, on commence à lui faire comprendre qu'il sera jamais vraiment libre.
Oui, c'est vrai que ça, c'était dans les petites conditions d'utilisation de « Ah, mais tu pourras pas partir où tu veux, par contre. »
Oui, mais ça, il ne le savait pas. On lui a dit « Tu l'as la couronne de fleurs et tu feras ce que tu veux.
Ouais, »
Quel monde de mythos.
Il y a un autre truc que tu as remarqué aussi, Joe, c'est comment sont composés les flashbacks.
J'ai remarqué au bout d'un moment que l'auteur, il enchaînait un peu les flashbacks. Au début, c'était une semaine et après, c'était 6 mois. Et je me dis, l'auteur, il aime quand même beaucoup mettre de flashbacks. Donc, il faut un peu s'accrocher, il faut suivre pour savoir, suivre la temporalité. Et je me dis, est-ce que c'est pas aussi un indice sur ce qui va suivre sur les révélations? Parce que autant de flashbacks, voilà.
Moi, je rêve d'un flash forward à un moment donné. On passe d'un flashback à un flash forward.
Mais surtout, l'autre là qui a pas de pouvoir et qui en fait voit l'avenir, Tu fais, bon, il doit bien avoir quelque chose.
Ah bah lui, son pouvoir, il est de la casser de toute façon.
Il voit de la prémonition. Après, son pouvoir, c'est un truc qu'on voit dans One Piece, dans plein d'autres mangas.
Et littéralement, lui, il voit une pellicule de film, tu vois. Oui. Là, mais comment il peut voir ça? Il sait pas ce que c'est, une pellicule de film.
C'est pour ça, au moment du combat contre la gravité, là, j'étais trop content. Je fais, parce que c'est limite un combat interstellar. Hein. Le mec, il fait un trou noir. Et tu fais, ah vas-y, t'as perdu. Et hop, en bobine. Ah non, mais t'as pas perdu. Bon bah, ok, on continue.
C'était alors. Bien fait d'ailleurs ce passage.
C'était très bien fait.
Mais surtout que, est-ce que son pouvoir, il est récupéré ou pas finalement à lui?
Mais il est pas mort.
Ah, il est pas mort?
Ah non, il est juste coupé en deux. Et en fait, c'est des branches qui sortent de son corps. Et il fait, bon bah, je vous retrouverai plus tard. Et ses potes l'emmènent. Et on sait pas ce qui devient.
Ah, mais c'est persuadé qu'il était
mort. Non. Il dit, ouais, je vous retrouverai parce que vous, Zoé et Lucas, vous êtes des jeunes pousses. Je reviendrai, les gars.
Et moi, je me suis trop dit, c'est leur daron. Hein. Après j'ai changé de point de vue
parce qu'il y a ce mystère de c'est quoi les jeunes pousses.
Ouais, il est tellement déter sur Zoé et Lucas, vraiment je me suis dit ouais, c'est leur daron, juste il les a un peu abandonnés, enfin tu sais, il les a abandonnés pour X raisons, un peu abandonnés.
C'est vrai qu'il dit je vais vous récupérer.
Une conception de la parentalité un peu particulière. mais je sais plus pourquoi sur la fin du tome
il dit je vais vous récupérer,
là,
je
me suis dit
moi.
Non mais ça tient pas en fait, ça tient pas que ça soit ses enfants. Ouais.
Bon, vous comprenez que on peut faire une heure entière sur The Bugle Call. Là, on a speedé comme des fous pour dire le plus de trucs possible.
Il y a plein de trucs que j'ai pas dit.
Il y a tellement de trucs à dire sur Korra. Enfin,
plein de références aux jeux vidéo. Joe, il parlait de Portal. Moi, j'en ai vu une aussi sur une scène qui est encore hyper bien faite, qui est vue du dessus, où t'as Akira qui va tuer tous les mecs dans une taverne. C'est vu du dessus et ça fait penser soit à GTA, soit au jeu Hotline Miami, tu vois.
Avec les traces de pas et tout.
Exactement. Tu le suis avec les traces de pas. Le découpage, il est trop bien.
Joe, t'allumes le tome 9, nous spoile pas parce que nous, non. Il est bien.
Bah, en vrai, j'avoue que la peur de Cagnard qu'il y avait de. Il veut repousser le plus loin possible et passer sur quelque chose, justement. Enfin, non, ta peur à toi qui veut repousser au maximum le twist et celle de Cagnard qui veut que le twist arrive et qu'après il en fasse quelque chose, eh ben, il est au tome 9.
Ok.
Oh.
Okay. En vrai, toutes vos questions,
on va être servi pour les deux. Super.
Eh ben, très bien. Le tome 9 sort donc le 16 avril prochain de Bugle Call. C'est signé Igoro Tomori et Mosuku Sora. C'est 13 tomes déjà au Japon, donc on a un peu d'avance. On a encore une bonne grosse année de lecture quasi sûre de Bugle Call.
Tu sais que là, si on se faisait un gros ride de scan, on aurait des réponses.
Merci.
On aurait des réponses.
Merci.
Ouais, mais on fait pas ça, Cagnard. Nous
non, mais on respecte la culture.
Je me suis poli entre les mains.
Je me suis rappelé au bon souvenir du seul moment où j'ai lu des scans dans ma vie. C'est un moment où j'avais craqué parce que tout le monde était en avance sur moi, sur Naruto, tu vois. Et j'ai craqué. Tu vois, j'ai lu 15 tomes, je crois, en
après,
scan.
Non, mais après, aujourd'hui, il y a des scans officiels. Hein. Moi, je lis One Piece chaque semaine et c'est bon. Hein.
C'est pas un scan, c'est juste une version numérique, quoi.
Bah,
le scan, ça sous-entend que c'est scanné et piraté, tu vois.
Et ben maintenant, je lis One Piece sur une version numérique et c'est bon.
The Bugle Call, donc, aux éditions Kihun. Passons au manga suivant maintenant. Et il s'appelle Dans le sens du vent, Nord-Nord-Ouest. On est dans un univers, mais radicalement différent. C'est aux éditions Soleil. C'est 7 tomes hein, pour Dans le sens du vent, Nord-Nord-Ouest. Et Cagnard, si on devait résumer ce manga, j'ai eu envie d'écrire Chill, Crime and Coffee.
Oui, ça me paraît bien. Moi, j'ai dit que c'était un vrai petit manga de chiller. Tu vois, il y a vraiment tous les personnages, ils prennent leur temps, ils savourent les paysages, ils boivent un petit café. Et franchement, vu la manière dont ils kiffent, tu vois, leur café spécifiquement, moi, je vois même, tu vois, c'est quoi l'image de la Lofi Girl? Eh ben, je vois une ambiance un peu comme ça, tu vois. Genre, quand je parle de kiffer, par exemple, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Axel, je lui fais une petite dédicace. Axel, c'est un kiffer. Quand il a un truc, il va réussir à te donner envie, tu vois. Si vous êtes dehors, vous avez tous les deux des gros manteaux, Axel, il va te dire « Je suis tellement bien dans mon manteau, j'ai tellement pas froid » qu'il va te donner envie d'avoir ce manteau. Et Axel, c'est un vrai kiffeur. Et il me donne ce manga, il me donne envie. Je bois pas de café, hein. J'en ai rien à foutre du café, j'aime pas ça, je trouve ça amer. Mais il me donne envie de boire du café.
Et dis-moi, Lofi Girl, c'est un peu électro, un peu, non?
Bah après, je sais pas, j'écoute pas trop la musique. C'est plus Robin qui aime bien ce style de musique. Mais oui, normalement, je crois qu'il y a toujours une vibe un peu électro. J'allais dire électro-punk, mais non, ça a aucun
rapport.
Parce
que moi, c'est marrant, en écoutant... on va faire les contours du manga quand même pour remettre un peu de situation.
Oui,
ce manga se passe en Islande. On est avec un garçon qui s'appelle Kay qui... pourvu, fait des petites enquêtes, fait un peu détective privé, et puis il se passe des choses avec son frangin, etc.
Il a un pouvoir, il peut parler aux objets.
Et c'est pas le seul à avoir un pouvoir en plus dans ce manga, mais en même temps, c'est un manga tranche de vie. Parce que malgré tout ça, bah, il y a de la tranche de vie. Et donc, attention, donc on va spoiler pour de vrai. Et donc, il y a vraiment des crimes et il y a vraiment des choses assez horribles qui se passent dans ce manga. Et tout s'additionne et tout se déroule de manière bizarrement chill.
T'as des beaux paysages, ils sont sur les routes à chaque fois. Et bah, évidemment, c'est des petits kiffeurs de route, tu vois. Ils kiffent trop conduire leur voiture sur les grandes étendues. Du coup, c'est marrant parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, on est quasiment sur un thriller Yashikei, tu vois.
Thriller qui fait du bien.
Ouais, thriller bien-être. Mais parce qu'en fait, si tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup de données de thriller dans le début de ce manga.
Oui et non. Et juste pour finir sur les contours, il y a un truc que j'ai fait, que je ne fais pas souvent, en fait, c'est d'écouter de la musique en lisant un manga. J'ai écouté beaucoup Eivor en lisant ce manga. C'est une chanteuse des îles Féroé. Alors, ce n'est pas exactement le même pays, mais c'est quand même pas très loin en termes de culture. Et ça allait trop bien avec ce titre.
Petite musique de thriller.
Totalement thriller. En plus, tu sais, c'est ces musiques où les chanteuses arrivent à faire des sortes de... Avec leur gorge et leur souffle, elles arrivent à faire des sons super étranges.
Ah, elles chantent dans la forêt ?
Ouais.
Ouais, bah oui, je vois. Je vois exactement.
Limite de la musique elfique, tu vois.
Oui, oui, non, mais c'est très, mais j'avoue, très stylé.
Mais voilà, Eivor Palsdottir, c'est une chanteuse connue après, hein. C'est pas un truc super, super pointu, quoi. Bref, revenons à ce que tu disais. Est-ce qu'on a vraiment un thriller ? Moi, j'ai l'impression qu'on est une dualité de... une quadruple dualité, comment te dire.
Vas-y,
en gros dans la lecture, on est chill, on fait du tourisme, mais sauf qu'on fait du tourisme avec un tueur en série qui tourne autour de nous. Et quand on lit le manga, à des moments on lit du chill. Le tome 2, c'est de la tranche de vie, c'est Hiraya Sumi, c'est un manga tranche de vie. T'arrives au tome 2, 3 ou 4, on est avec un serial killer, qu'est-ce qui se passe? Et donc ta lecture, et après ce rythme-là, je trouve qu'il s'enchaîne plus au niveau des chapitres plutôt que des tomes. Et ça te donne un moment donné super chill. T'es là, tu te détends, puis ensuite t'es page-turner parce que t'as envie de savoir ce qui se passe. Et t'arrives à un moment donné, à la fin d'un tome, je pouvais pas m'arrêter, j'avais besoin de lire tout de suite le tome d'après. Et sauf qu'arrivé, une fois que j'avais lu mon chapitre, j'ai fait « Bon, bah, je peux reposer mon tome, c'est bon, j'ai mes réponses, je sais que la suite va être chill, donc ça va ». C'est bizarre cette dualité, cette rythmique, et en même temps c'est agréable, mais c'est jamais vu. Enfin, je me souviens pas avoir déjà senti ça.
Non, honnêtement sur un titre enquête thriller, je me souviens pas avoir lu un truc qui ressemblait à ça. Déjà un manga qui se passe dans les pays du Nord, dans les pays du Nord comme ça. Mais t'as raison, par contre le rythme est hyper bien maîtrisé, alors que en fait on se fait couiller exactement de la même manière à chaque tome, hein. Chill, 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 et à la fin page turner. Et j'avoue que je trouve ça assez original, parce que en fait au début on se contente de voir le héros qui en fait il est c'est quoi son métier, il retrouve des objets ou des gens.
Il est gatebakers, quoi.
Ouais, il est gatebakers si jamais ce métier existait dans la vraie vie. Et en fait, ce que tu vois, c'est que chaque histoire, elle n'est pas passionnante du tout, parce qu'on s'en fout qu'il retrouve l'objet. En fait, c'est surtout ce que la personne qui l'a embauché ressent par rapport à cet objet. Et donc, en fait, c'est comme s'il réparait le cœur des gens, tu vois. Il y a un côté limite City Hunter, tu vois, il vient aider les gens.
Sauf que ça fait un canevas à la fin. Finalement, tous ces gens, toutes ces missions nourrissent sa vie.
Oui, c'est la partie du manga chill, on va dire, où voilà, il fait voilà des petites enquêtes, mais c'est vraiment des mini enquêtes. Et après, tout autour, il y a en toile de fond l'histoire de son petit frère qui s'appelle Michitaka. Et c'est ça, la partie page turner où à chaque fois on revient. Et mais ce que j'adore, c'est que Michitaka plane sur le manga. Il y a vraiment un côté, tu le vois très peu.
Ouais, mais je crois qu'à un moment donné, ça devait être au tome 4 ou 5, je me suis vraiment dit, attends, est-ce que en fait ça serait pas une revisite de Monster, et en fait on découvre que Tenma et Johan sont des frères et c'est leur vie qu'on est en train de suivre un univers parallèle.
Ah bah il y a un gros côté Monster, parce que du coup Michitaka, justement, en fait dès le début du manga, on apprend à Kei que en fait Michitaka a assassiné son oncle et sa tante Alors que quand tu vois Michel Lagasse, c'est un petit garçon qui est très mignon, avec des cheveux bouclés, il a l'air très calme, et du coup Kai évidemment ne le croit pas, mais plus on avance dans l'histoire et plus on se rend compte qu'il y a de plus en plus de témoignages accablants au niveau de Michel Lagasse. Alors il y a vraiment des personnes qui ont peur de Michel Lagasse, et ben là t'es obligé de penser à Johan de Monster, qui avait exactement cette présence très fantomatique, on va dire. Il plane, on parle de lui, mais tu le vois que vite fait, par intermittence.
Et Tenma court beaucoup.
Oui, et c'est pour ça que au final,
au final, il arrête pas de courir après Michitaka aussi.
Et finalement, c'est pour ça que j'ai du mal à le voir comme un thriller. Au final, j'ai plus l'impression de voir un manga, tu sais, une chasse à l'homme. Mais comme Tenma lance une chasse à l'homme sur Johan, alors là, il n'y a pas les mêmes intentions, parce que Kay, il est encore persuadé que son frère n'a rien fait ou qu'il s'est passé quelque chose de bizarre, mais il est vraiment dans une chasse à l'homme. Alors au début, elle est un peu chill, et là, dans les derniers tomes, non, là, c'est devenu le cœur du scénario.
Et alors, giga spoil, attention, il faut être à jour sur le dernier, dernier tome. À ton avis, il est encore... Je laisse encore un petit moment si jamais les gens veulent mettre pause. À ton avis, il est encore vivant, Michitaka ? Où il y a un truc encore plus gros derrière ?
Bah, disons que c'est peut-être là que le manga m'a un petit peu déçu, parce que évidemment, si t'as déjà lu Monster, tu fais ton cerveau, il fait les parallèles tout seul, tu vois. Et au bout d'un moment, arrivé, tu sais, au tome 4, 5, je me disais, oui, par contre, faut quand même proposer autre chose que Monster, parce que, enfin, autre chose que Johan, parce que Michitaka prend vraiment tous les côtés de Johan. Il est manipulateur, il arrive à retourner le cerveau des gens. Il était au collège, à la fin, il y a tout le collège qui se battait entre eux. Exactement ce que fait Johan quand il arrive dans des villes.
Mais pour avoir pour être regardé par Michitaka. Tellement
oui,
il est
ça,
beau, tellement
voilà, il est beau, il est
incroyable.
Intéressant, il met tout le monde à sa botte. Et c'est pour ça que là, c'est la partie où j'étais un peu déçu, parce qu'au moment où on le découvre mort, je me suis dit, ah putain, pour de vrai, en fait, c'est pas lui. Et là, du coup, tu sais, ça a fait changer tous mes calculs, vraiment, où je me suis dit, bon, bah alors attends, qui ça peut être ? Qui on a vu comme autre personnage précédemment qui pourrait prendre cette place ? J'y ai vraiment cru à cette mort, et pour moi, c'était un vrai moment pour relancer le manga, pour au final, un tome après, bon, bah, Kay qui dit, non, mais c'est impossible, il est pas mort. C'est... Et là, j'avoue, ça m'a un petit peu déçu.
Mais on sait pas, en fait, il en est juste persuadé, mais ça se trouve, il est vraiment mort, en fait.
Bah, techniquement, tu vois pas comment il pourrait être vivant, parce que son corps est quand même retrouvé dans de l'eau glacée. Après, voilà, il y a toujours le truc, bon, ils ont pas vu le corps, non, parce que faut d'abord qu'on fasse une autopsie dessus. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'enterrement, ou ils ont vu le corps, tu vois.
Mais moi, le moment où je me suis dit qu'il était vraiment extrêmement cruel, c'est avec l'histoire des deux parents qui pouvaient pas avoir d'enfants et qui l'ont pseudo-adopté, qui lui avait carrément fait une chambre. Elle était tellement triste, cette partie-là. J'avais le cœur qui était serré, quoi.
Ouais, je crois que ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que... Alors, c'est les deux parents, justement, qui racontent cette histoire à Kay. À Kay, ouais.
Ouais.
Et à la fin de l'histoire, ils sont un peu en mode, genre, haha, on a été bêtes d'y croire. Moi, c'est ça qui m'a vraiment attristé, c'est qu'ils en veulent même pas à Michitaka. Ils sont en mode, genre, oui, en même temps, on a été un peu cons. Tu vois, on a été un peu cons de croire en l'amour de ce petit garçon.
Et là, tu vois toute le pouvoir de manipulation qu'il a. Et il y a un truc qu'on nous a pas dit dans ce manga encore. C'est qu'est-ce que c'est que ces pouvoirs ? On en parlait au début. Kay a des pouvoirs. Il parle aux machines. Les machines lui parlent. Hein. Il communique avec les machines. Et elles lui disent des trucs super précis. Genre, j'ai vu passer Bidule.
Ouais,
j'ai vu une
mec,
voiture de police passer dans cette rue. C'était il y a 20 minutes. Elles sont super précises, les machines. Hein.
Pouvoir hyper utile.
Ah bah, pouvoir hyper utile, surtout quand tu fais des enquêtes. Tonton Jacques, parce qu'il y a un Français encore dans cette histoire. Il y a des Français partout dans mon manga. Tonton Jacques, il a quasi l'air de parler aux oiseaux, non ? Il y a un truc comme un peu bizarre.
Bah, en fait, il n'y a que Kay qui est dévoilé en tant que possesseur de pouvoir. Mais tu sens que, bah déjà, Michitaka, tu peux te dire qu'il y a une forme de pouvoir...
Michitaka, il peut infliger des sortes de coupures nettes aux humains par la pensée,
ouais.
Mais sans laisser de traces, sans vraiment les découper, mais il applique l'effet d'une découpe d'êtres humains.
Bon, je sais pas si c'est un pouvoir, ça. Je pense c'est plus, alors, il les terrifie tellement qu'ils ont l'impression d'être découpés en petits morceaux, tu vois.
Ouais, mais t'as l'impression qu'il peut agir que sur un bras, tu vois.
Ah oui, il comme peut
le
anesthésie
bras,
locale ouais. Ou générale, il peut le faire aussi. Mais effectivement, Jacques, tu vois qu'il parle pas directement aux oiseaux, mais il y fait très attention. Ou il y a l'autre personnage féminin qui est un peu le crush de Kate, je me souviens plus de son nom.
Alicia.
Elle a quand même des feelings un peu chelous, elle aussi, tu vois. Alors, je pourrais pas dire quelle est son si elle a un pouvoir, tu vois, mais... Bon,
bah, elle peut détecter les mensonges par rapport à la sonorité qu'ont les gens quand ils parlent.
Elle, dès qu'elle a vu Michitaka, elle a dit direct « Tu peux le dégager de chez moi, je l'aime pas du tout, lui, je veux pas qu'il soit là. » Peut-être comme le personnage de Hunter x Hunter, tu sais, qui, avec la mélodie, vu qu'elle est chanteuse, en plus... Ah oui, tiens, j'y avais pas pensé. Ouais, ouais, effectivement, il y a peut-être un truc de elle entend la musicalité du mensonge...
chez les gens. Mais ouais, ouais, carrément. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et ça, elle nous a rien révélé. Et c'est pas non plus l'objet du manga, mais je pense que l'autrice a travaillé dessus quand même. Et qu'à un moment donné, ça ira quelque part.
Bah, c'est impossible qu'il y ait que Kay qui ait des pouvoirs. Tu vois, il y a vraiment aucun autre perso pour le moment. Alors, c'est vachement utile pour l'avancement de l'intrigue scénaristiquement, tu vois. Mais c'est improbable. Pour moi, j'ai c'est vraiment Michitaka. C'est sûr qu'il a un pouvoir de domination de la pensée ou quelque chose comme ça, d'illusion. Mais tu vois, en même temps, le pouvoir de Kay, c'est pas un pouvoir époustouflant. Et j'ai l'impression que c'est pas la vibe de ce manga. Tu vois, on n'est pas dans Bugle Call, il y aura pas des pouvoirs, tu sais, oui, je peux faire tomber des météorites sur Terre, bonjour. Là, c'est plus du super pouvoir du quotidien. Tu vois, du truc genre où moi, le premier, je vois le pouvoir de Kay, je me dis, ah, celui-là, je m'en servirais bien dans la vraie vie. Tu vois, ça a l'air vachement utile. Tu sais, t'as perdu tes clés, tu peux littéralement les appeler. Genre, vous êtes où? Et elles vont te répondre. Genre, bah là, tu viens me chercher, tu vois.
Faut que t'aies un petit truc électronique quand même sur tes clés.
Bah, c'est mieux d'avoir le pouvoir de Kay quand même. Tu sais, s'il y a un métro qui est en galère, tu viens le voir et tu dis « Ouais, métro, qu'est-ce qui se passe et tout ? Comment tu peux redémarrer ?»
C'est vrai qu'au quotidien, c'est quand même super
mais
utile.
Mais c'est un vrai super pouvoir de
putain, mais pour ouvrir
quotidien.
Des portes quand t'as pas tes clés.
Mais oui, c'est t'as oublié tes clés.
Ouvre-moi, Digicode. Digicode, ouvre-moi.
C'est pour ça que je sens plus comme ça, parce que c'est aussi le ton du manga. C'est des pouvoirs kill, en fait, tu vois. Enfin, le pouvoir de Kay, en tout cas.
Et il y a un autre point aussi dont tu me parlais en préparant cette émission. Et d'ailleurs, on en parlait avec Julie il y a 2 semaines quand on évoquait ce manga. Il a été question de sensualité à un moment donné.
Bah, c'est un point que je trouve vraiment intéressant. C'est l'aspect graphique du manga. Parce qu'on a des personnages masculins qui sont très androgynes. En même temps, des personnages féminins qui sont très féminins. Et en même temps, tu vois, il y a une vraie tension érotique. Pendant tout le manga, c'est omniprésent. Et limite, ça me fait marrer parce que je trouve que c'est très très bien géré. Et parfois, le titre, il est à la limite du graveleux de basculer sur les vannes. C'est un peu bébête du manga, genre « Ah, j'ai posé ta main sur les fesses » ou « Ah, je suis tombé dans un panier de petites culottes ». Et je trouve que ça, c'est dissonant avec la petite tension... sensualité, sexualité que je trouve vachement à propos, que je trouve qui marche très bien parce que Kay est quand même un adolescent. Jacques est un homme à femme a priori, donc pour moi c'est normal qu'il y ait toute cette partie là mais il y a voilà des petits moments où je suis là, ah tiens c'est grave le japonais qui est de ce côté là et je trouve que ça dissonne quoi, ça marche moins.
Alors moi je vais plutôt bugger sur autre chose que tu dis, que Julie disait, elle parlait de sensualité, toi tu parles éventuellement d'une tension érotique, j'arrive pas à la voir moi. Elle ne vient pas jusqu'à moi. Moi, je vois du sensoriel, c'est-à-dire que on utilise les sens, on essaie de faire marcher mes sens de plein de manières, mais pas pour le plaisir. Je trouve les personnages beaux, je trouve que tout est très froid. On est en Islande d'ailleurs la plupart du temps, ce qui du coup va bien avec des personnages désertiques et ainsi de suite. Ça fait vraiment appel à mes sens, mais d'un point de vue très technique. Tu vois, même le café, il a pas l'air d'être incroyablement bon, mais j'ai l'odeur du café, c'est technique. Tu vois ce que je veux dire ? La différence sensuelle, sensorielle ?
On va dire que oui, je le vois. Et en même temps, je le vois pas comment tu n'as pas vu la grosse main aux fesses qu'il met sur la meuf ou quand il la surprend littéralement dans la salle de bain à poil et qu'elle dit bah, maintenant c'est à moi de te voir à poil. Ou t'es là, bon, bah, classique Japanese shit, tu vois.
Oui, c'est un classique du manga. Genre, c'est
oui,
vrai
mais
que moi, je le vois comme. C'est un code, vous l'avez mis, très bien.
Je suis étonné de le voir dans le sens du vent. Je trouve que le titre est tellement particulier, il a tellement un ton différent. Alors qu'est-ce que ça fout là, ce genre de truc ? mais bon, ça après c'est perso, tu vois. Ça ne dérange pas du tout la lecture, c'est une case et puis c'est plutôt pour expliquer les premiers émois un peu adolescents.
Oui, parce qu'il a 17 ans, Kay. Hein.
Oui, et Kay ne s'intéresse pas du tout aux femmes et on va se rendre compte que finalement. Attends, Denis, pourquoi tu souris comme ça depuis tout à l'heure?
Parce que je veux savoir, il est gay ou pas?
Bah non, il est pas. Non, non, bah, il est pas.
Enfin, t'as dit finalement, du coup, j'attendais la.
Non, non,
la
c'est que finalement, il commence à s'intéresser aux femmes.
Après, la majorité,
aussi,
c'est 21 ans, hein, donc peut-être qu'il attend 21 ans.
Mais ouais, t'as vraiment ces phases où, genre, il pince les fesses de la meuf et il est là, oh, c'est comme une brioche. Je suis là, mais wesh, poteau, pourquoi t'as pris 3 tomes à faire le gars poétique et tout pour claquer des trucs comme ça? Ça va pas, tu vois.
À qui iriez, elle autrice de ce manga, Dans le sens du vent? C'est 7 tomes disponibles aux éditions Soleil. Le tome 7 est donc sorti en France l'année dernière au mois de mai. Le tome 8 n'est pas encore sorti au Japon. Je crois qu'il y a 4 ou 5 chapitres seulement de près, donc il va falloir encore un peu patienter. Je sais pas trop à quoi m'attendre pour la suite, mais à un moment donné, il va falloir dérouler l'enquête, quoi.
Ouais, bah, de toute façon, là, moi, j'ai déjà l'impression qu'on est un peu dans l'arc final de l'enquête. Il y a eu un renouveau de Kay au moment où il apprend la mort de Michitaka. Il est en deuil, évidemment, il va pas bien et compagnie. Donc, pour moi, on est déjà dans un volume de transition à ce moment-là. Moi, je le sens bien finir à la dizaine, hein, le manga. Et ça serait pas mal, c'est 10, 11, tu vois, quelque chose comme ça.
Ouais, et ça sera une très, très belle série. Dans le sens du vent, nord, nord-ouest. Dernier manga de notre sélection, il s'agit d'Akane Banashi. On change d'univers avec ce manga aux éditions Kihun. C'est 13 tomes. Nous allons donc en parler avec Joe jusqu'au tome 13. Donc, il y aura du spoil. Ouais. Et ce manga parle donc d'Akane. Akane qui veut devenir la meilleure Rakugoga, exactement, tout le Japon. On est donc sur...
Mais je suis pas sûr que ce soit ça son but. Hein.
Non, c'est pas ça son but, mais...
mais on va dire que c'est ça.
Bon, d'accord, bon, voilà, dans l'ensemble, c'est pour...
Je remettrai un petit point là-dessus.
Oui, oui, alors le Rakugo aussi, qu'est-ce que c'est? C'est un art, une sorte de...
C'est un compteur traditionnel.
Un compteur traditionnel.
Vous êtes sûr que vous voulez perdre du temps avec ça, là?
Non,
c'est
mais,
bon, c'était pour passer.
Mais avancer, surtout que le tome 14, c'est la fin de...
Vous avez beaucoup de choses à dire.
Et oui, il y a que 14 tomes. Pas du tout, il y en avait au Japon. Je sais pas comment ça finit.
On est d'ailleurs sur un manga scolaire à la base.
Mais bah, les 4 premiers tomes, c'est scolaire, ça c'est sûr.
Ouais, sauf qu'en fait.
Sauf qu'après, elle devient professionnelle et ouais. Adios.
Quitte l'école. Adios l'école.
Non mais. Adios, ça m'a assez vite choqué. C'est genre Akane, elle quitte l'école. Allez, on est dans un manga du Jump, tu vois, qui est censé être un peu. Un peu dans cette mouvance-là. On est sur un manga typologie sport, Hikaru no Go, Inomaru Sumo. On est sur ce genre de typologie-là.
C'est vrai que sur les mangas de sport, on demande jamais aux élèves de quitter leur cours, non, tu vois, de quitter l'école.
Elle finit le lycée. On voit même pas spécialement l'examen.
Non, on voit rien. Elle va, je sais même pas si elle va faire son diplôme. Mais après, c'est normal parce que le but, c'est qu'elle devienne Rakugoka. Et en vrai... C'est une profession. Du coup, elle peut pas être à l'école pour établir une profession. Et c'est ce qui se passe à la fin du concours, au final. Elle devient Zenza. Et du coup, Zenza, c'est le plus petit grade de Rakugoka. Et c'est une pro. Donc, elle est censée gagner sa vie maintenant. C'est son travail, quoi.
C'est un travail qu'elle fait, ouais, à 100%. Et je trouve que ça sort un peu des normes, des codes de ce qu'on voit dans les mangas du Jump. En plus, c'est probablement le concours qu'elle fait, le concours amateur avec sa conseillère d'éducation, sa prof principale, je sais plus qui ce qu'elle a comme taf dans le bahut, oui. qui est d'accord pour l'emmener faire un concours amateur. Et je trouve que c'est quasiment un des meilleurs moments du manga en termes d'intensité de Rakugo, de comment les auteurs dessinent, comment ils mettent en scène. C'était vraiment un point culminant, je trouvais.
Ouais, ça c'est vraiment un culminant et c'est ce qui nous fait dire que la suite va être bonne. Et puis surtout, la punchline du maître à la fin qui lui dit « tu sais très bien que t'as pas à être là ». Et l'autre qui fait « ouais ». Et là, tu fais « allez, c'est parti, on commence le vrai manga maintenant. Allez, on y va. »
Avec plein de moments où il n'y a pas Akane. Enfin, en quelques moments où il n'y a pas Akane du tout.
Il y a quand même pas mal. Hein. On pense forcément au tome 13 parce que c'est le dernier qu'on a lu et qui est un des plus poignants parce que c'est une des personnes de son club qui va passer Shinuchi, qui est le grade le maximum que tu peux avoir en Rakugoka. Et il n'y a pas Akane du tout. On voit que sa performance à lui. Et malgré ça, c'est quand même très, très poignant. Le tome 10, c'est un peu pareil. Il y a très peu d'Akane. On voit beaucoup d'autres personnages. Et en fait, au final, tu arrives au tome 13 et il y a une ribambelle de personnages énorme. C'est incroyable le nombre de personnages. Au début, j'ai l'impression qu'on était dans One Piece, si tu veux.
J'ai retenu la moitié
tu
des noms.
Tu peux pas les retenir. Tu peux juste retenir un peu leur, comment dire, leur technique, genre machin aux 8 spectres avec les voix. Bah, la doubleuse, tu la retiens, c'est normal. L'autre qui a la coupe au bol, bah, tu le retiens parce que c'est un peu son rival, tu vois.
La doubleuse, coupe au bol.
Ouais, voilà. Et après, j'ai les noms. C'est Karachi, la doubleuse, je suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment énormément de personnages.
Et la meuf stylée qui est maître.
Voilà. Et tous charismatiques.
Moi, je l'appelle la meuf stylée qui est maître. Bah, tu vois.
Ouais, mais sentait enfin ce qu'on a ressenti avec Robin sur My Hero Academia. Bigou, non, explosion.
La meuf stylée qui est belle, elle s'appelle Urara. Et moi, ça me fait penser au mec de Bleach. Mais du coup, j'ai retenu son nom et c'est vrai que l'auteur est vraiment très très fort pour faire des personnages charismatiques et pas des personnages de second plan. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a plus ou moins une histoire pour chaque personnage et je trouve ça fou.
Et en revanche, je les mélange pas pour autant. C'est pas parce que je retiens pas les noms, c'est juste qu'il y en a plein, que je lis un million de mangas et qu'à un moment donné, mon cerveau dit stop. Mais sinon, je les retiens très bien. Le tome 13, justement, est-ce que c'est pas le tome qui dit « Allez, stop, maintenant on va passer aux choses sérieuses, ça commence. »
Bah, j'ai vraiment eu cette impression moi aussi, déjà en plus tu le vois sur l'histoire de ce personnage, où ce personnage en fait pendant 8 ans il a plus ou moins mis sa vie en pause, et que là maintenant il s'autorisait à vivre pour lui-même, mais en plus c'est abusé parce que il veut faire la même chose qu'Akane.
Oui, et c'est le disciple de son père.
C'est le disciple de son père, et il veut faire la même chose qu'Akane, c'est-à-dire prouver à maître Isho, celui qui a expulsé le père d'Akane, que ce que faisait le père d'Akane, c'était bien, et qu'il pouvait réussir comme ça. Parce qu'en fait, c'est tout ça l'histoire. C'est que Akane, elle veut prouver à ce maître qu'en faisant le Rakugo de son père, elle peut devenir Shinichi, le grade maximum. Et c'est ce que fait le mec dans le tome 13. Sauf qu'il le fait pas entièrement. Parce que maître Isho, qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire... T'as pas été parfait. Et il dit pourquoi t'as pas été parfait? Parce qu'il y a deux personnes qui dormaient, en gros, et que si tu les avais réveillées, je t'aurais donné le point. Et en gros, c'est ce qui va se passer pour Akane. Akane, elle va devoir faire un 100% perfect pour devenir Rakugo. Et c'est certainement la dernière scène du
manga. La pression,
c'est ce que je vois. Et pour le coup, c'est ça qui était magnifique. C'est que même le mec qui voulait pas lui donner le grade, lui a donné. Parce qu'il a reconnu son talent. Je ne parle pas du maître, mais l'autre, son pote qui était anti, il dit « jamais je te donnerai un truc ». Il a pleuré. Et en fait, tu sens l'émotion dans tous les tomes. En fait.
C'est bien fait. Et du coup, ça nous raccorde tout de suite avec l'histoire du père. Parce qu'en fait, tout commence avec le père d'Akane qui est obligé d'arrêter, qui se fait virer du monde du Rakugo dès le début. Elle, qui était en adoration devant son père, a donc décidé de vouloir suivre cette voie aussi à cause de ce drame. Et... c'est un peu le seul drame du manga, il n'y a pas de drame.
Et en plus, c'est même pas un vrai drame parce que moi, en fait,
parce que le mec continue sa vie en plus. Hein.
Bah, oui, mais en fait, j'ai eu ce flou à chaque fois au début du manga. Je fais, est-ce que son père, il est mort? Est-ce que son père, il est parti? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec son père? Parce qu'au final, on n'a aucune réponse et c'est disséminé un peu vers la fin. Et heureusement, à un moment, le père d'Akane revient. Donc tu fais, bon, il est déjà vivant. Et en plus, il blague sur le fait qu'il était vivant. Donc tu dis, les auteurs, ils l'ont fait exprès de mettre cette scène et de laisser ce flou. Alors je ne sais pas si c'était pour avoir un ressort scénaristique, pour se mettre une porte de sortie, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on ne le met pas. Mais ils ont fait exprès de mettre ce flou dans notre scénario. Et pour le coup, ça, c'est bien passé et c'est passé rapidement.
Donc, ouais, mais alors le flou, il existe encore. Hein, parce que malgré tout, il la voit avec son père. Bon, ils ont l'air...
Non, mais il parle. Mais c'est vrai que maintenant, t'as l'impression que son père est là, il l'a vu sur scène, et vas-y, maintenant, on avance, quoi.
Mais on voit qu'elle a 19 ans, qu'elle est émancipée, que c'est plus son petit papa de quand elle était une petite enfant. Tu la vois pas non plus énormément avec sa mère, mais tu la vois, donc tu sais déjà qu'elle habite avec sa mère.
Sa mère, elle est pour l'encore.
Mais effectivement, lui, il est jamais là. Tu sais pas s'ils sont divorcés, tu sais pas...
Non, et du coup, il est jamais là, et il donne plus ou moins l'explication, c'est qu'il est commercial dans le ciment. Il est certainement jamais à la maison parce qu'il est en train de vendre du ciment dans les bâtiments. Je pense que c'est ça l'explication. En vrai.
Ouais.
Mais c'est une explication un peu bidon.
On dirait le papa d'Olivia Hatton. Un petit peu quand même. Il n'y a pas un tonton qui est venu à la maison pendant les tomes là?
Non, en tout cas, on le sait pas encore.
Roberto, qu'est-ce que tu fais là aussi?
Et donc, pour revenir à mon premier point sur l'absence de drame, tout va bien dans la vie d'Akane. C'est, ouais. Et c'est rare, en fait, dans ce genre de manga, d'avoir une héroïne qui n'est pas muée par quelque chose d'assez profond et dramatique et
oui,
dur, quoi.
Oui, il n'y a personne qui est mort, elle n'a pas de doigts coupés ou des trucs comme ça, et elle n'est pas autiste. Donc, honnêtement, c'est vrai que tout va bien. Elle est vraiment focalisée sur comment je peux améliorer mon art, quoi.
Elle n'est pas possédée par un fantôme qui lui apprend les règles du jeu, tu vois, rien. Donc, c'est marrant. Et au milieu de tout ça, on a une mise en scène qui est absolument démentiel pour réussir à raconter ça. Parce qu'on, graphiquement, faut imaginer le nombre de tips, de trucs, d'astuces, d'évolutions graphiques, de jeux avec les bulles, puisqu'on est quand même avec des personnages qui racontent des histoires en eux-mêmes interprétant différents personnages dans un manga silencieux. C'est enfin, l'inventivité qu'il faut, c'est bluffant. Je sais pas si on se rend bien compte de... comment ils doivent se faire des nœuds au cerveau pour réussir ça, quoi.
Ben, l'auteur est vraiment assez fort pour nous intéresser au Rakugo, hein, qui est quand même un art un peu désuet. Et il utilise d'ailleurs parfois des analogies avec le jeu vidéo ou même avec le Nin. Franchement, le Nin, le parallèle avec le Nin, c'est vraiment le Nen d'Hunter x Hunter. Et ça, j'ai trouvé ça très fort à ce moment-là. Et je me suis dit, déjà, le dessin est super stylé, mais en plus, il arrive à nous donner envie de connaître quelque chose alors qu'en fait on n'en a pas envie, mais il nous le donne.
Et alors je sais pas si ça te fait le même effet parce que la façon dont il dessine les histoires contées par les Rakukoga sont pas toujours dessinées de la même façon. Il y a des fois où c'est vraiment dessiné façon estampe à l'ancienne, ouais. Et puis il y a des moments où c'est beaucoup plus précis, c'est juste un autre style de dessin, mais on est vraiment technique, dans un autre manga, et je trouve que à ce moment là il me donne une indication. Cette histoire est plus importante que les autres. Il faut la lire avec beaucoup plus d'attention et de détails.
Moi, je n'ai pas pris comme ça. Je m'en suis rendu compte quand Akane, elle prend là, du plaisir sur, sur son dernier conte, où en gros, elle est immergée elle-même dans le conte. Et en fait, quand elle vit le conte, les dessins sont normaux. Quand elle le raconte, elle raconte une histoire, elle raconte une estampe, ce que les gens peuvent arriver à voir si elle se débrouille bien. Mais quand elle le vit elle-même dans son conte, et ben là, les personnages sont dessinés un peu comme dans le manga. Moi, je l'ai pris comme ça. Après, je pense qu'il y a un milliard de façons de le prendre. Moi, ce qui reste très bluffant, c'est que comment le Rakugo peut captiver autant le lecteur, enfin comme ça. Moi j'ai pas, j'ai mon ressenti d'habitude de j'aime pas ça. Je suis plutôt quelqu'un qui aime la SF, la fantasy, et pourtant j'adore lire Akane Banashi. Et concrètement, c'est pas mes thèmes de prédilection. Et là où je me suis dit, mais pourquoi j'aime ça? Et je pense que c'est ce truc de les mots, les joutes verbales, le comportement, et Akane qui excelle au final dans tous ces thèmes-là. Et c'est ça que j'ai apprécié.
Bah quand tu lui demandes d'interpréter son conte d'une autre manière, oui, comme si elle parlait à ses copains et tout ça, tu fais...
Un truc moderne.
C'est rien que ça, je trouvais ça intéressant de voir comment c'était mis en scène. Et puis c'est un manga qui est dans l'air du temps, malgré tout. On parle de notre époque, de notre monde. On parle de réseaux sociaux, on parle de smartphones. Ça m'a fait rire à un moment donné, par exemple. Il parle donc d'un show de Rakugo. Et non, on n'a pas le droit, c'est trop... C'est trop classique, le Rakugo, on n'a pas le droit d'en faire la pub sur les réseaux sociaux, c'est interdit par le maître.
C'est interdit par la fédération de faire la pub pour les réseaux sociaux. On peut juste en faire la pub auprès de nos proches, mais on n'a pas le droit de s'auto-promouvoir. Mais il y a plein de choses comme ça, parce qu'au final, toi, il parle un peu du sexisme avec la fille, la femme maître qui s'appelle Urara. Et donc, elle disait en gros que les femmes étaient très mal vues dans le Rakugo, forcément, dans un monde d'hommes. Et au final, celui qui a été le plus récalcitrant à mettre des femmes dans le Rakugo, et ben c'est lui qui a pris la Urara dans sa faction et qui en a fait une maître, parce qu'il a décelé en elle celle qui était la plus porteuse de son art, qui pouvait retranscrire son art au maximum. Et t'as ces petites morales qui passent, qui fait que vas-y, on accepte au final, que tu sois un homme ou une femme, en fait on n'a rien à foutre, juste tu sois bon, quoi.
Et alors c'est un manga très... Je vais dire safe place. Il n'y a pas de doigts coupés, il n'y a pas de meurtrier.
Ah non, mais je crois que j'ai vu une scène de fanservice, c'était juste sur un truc de chapitre où Akane était en train de servir une bière, et c'était vraiment la seule chose que j'ai vue.
Il y a, si effectivement on voit des gens jouer, fumer, boire, bon c'est les trucs
ouais,
les
mais
plus...
toujours un truc rigolo.
Oui, alors toujours, effectivement, et puis c'est toujours des personnages les plus extravagants qui font ça, mais je... l'impression qu'on peut mettre ce manga dans toutes les mains sans aucun souci, si ce n'est que bah, il faut réussir à comprendre ce qu'est le Rakugo, quoi.
Oui, et je pense que tu le comprends très très rapidement parce qu'il y a énormément d'explications et t'as l'impression de toute façon que tu tombes dedans sans faire attention. Moi, il y a aussi un truc qui m'a marqué, c'est qu'à un moment, Akane, elle parle de son père, où on lui demande de faire des recherches sur son père, comment il était, etc. Et elle connaît pas son passé. Et en vrai, je me suis retrouvé dedans parce que cet épisode-là, où elle connaît pas le passé de son père, j'ai pensé exactement la même chose. Au moment où moi, je devais réfléchir sur qu'est-ce que mes parents ont vécu avant moi, mais en fait, mes parents, ils ont pas vécu avant moi pour moi. Juste, ce sont mes parents, et je me suis jamais posé la question de c'est quoi qui s'est passé avant que je sois né. Pour moi, en fait, c'est mes parents, c'est mes parents. Et elle a exactement la même réflexion. Et on lui fait remarquer. Et là, elle se renseigne sur son père. Et là, elle se renseigne sur ce que faisait son père dans le Rakugo. Et c'est là où il y a un petit déclic, où elle évolue encore plus dans le Rakugo. Mais c'est vrai qu'il y a des thèmes tellement généraux sur la société, sur la parentalité, que ça parle à tout le monde.
T'imagines quand on racontera à tes enfants tout ce que tu faisais avant.
C'est clair, ils vont dire quoi, papa, il on peut t'entendre
n'importe quoi. Puis toujours plein de refs dans ce manga. Dommage, moi par exemple, c'est les interchapitres, des fois j'y vois du Toriyama un peu.
Même à la fin ils mettent en scène, t'as l'impression que c'est des affiches de films. Je sais pas ce que c'est, parce que je suis pas trop renseigné, mais il y a un moment je me suis dit c'est Orange Mécanique ou pas le truc. Mais ouais,
aussi je crois que t'as raison, oui,
il y a un moment c'est Orange Mécanique,
ouais, je crois. Ouais.
Mais non, il y a beaucoup de refs. Même Maître Taizen, franchement, on dirait King de One Punch Man, le mec qui est toujours sérieux, furieux. Chocho, on dirait Iruma, parce qu'il a des dents de démon, tu vois.
Mais tellement.
Mais franchement, il y a après, c'est aussi des titres du Shonen Jump. Donc je me dis, est-ce que ils font pas des petits parallèles comme ça pour le fun? Mais honnêtement, c'est assez cool. Et moi, il y a des punchlines de traduction que je trouve trop stylées. Genre quand le grand maître d'Akane là, il demande à Chocho si Akane a le niveau pour passer Futatsume, parce que normalement, il faut qu'elle soit recommandée par quelqu'un. Et donc il demande, est-ce que tu crois qu'elle a le niveau? Et le mec il fait, c'est pas à moi de dire qu'elle a le niveau. Moi, mon rôle, ça se résume de croire en elle et de lui donner une opportunité. Et j'ai fait, putain, mais c'est trop stylé. Moi, je veux dire ça à ma fille quand un jour quelqu'un lui demandera, tu crois qu'elle pourra passer championne de... Moi,
tu
mon rôle,
que...
c'est
papa,
juste...
Papa, tu crois que tu pourrais être garant pour moi, pour cet appart? Écoute, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de croire en toi.
Mais franchement, pour le coup, la traduction sur ce manga, je trouve qu'elle est forte.
Alors, qu'est-ce qu'on attend de la suite d'Akane Banashi? C'est pas aussi haletant, entre guillemets, que dans le sens du vent dont on parlait juste avant, ou The Bugle Call, parce que la vie de personne n'est en danger ici. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes attentes. En revanche, j'attends à ce que Akane y aille pour de vrai. Est-ce que là, on a vu trois représentations en 13 tomes? Ouais. Finalement, on n'a pas vu grand-chose. Hein.
Bah, si, on a fait peut-être 3-4, parce que tu vois là elle élargit son...
Il y a le Jugemu qu'elle a fait.
Ouais, mais après, il y a plein de trucs avec le Rakugozo, là. Mais au final, parce que tu
oui,
sais...
Oui, mais ça, c'est pas...
Non, mais au début, elle a 6 histoires, et à la fin du tome 13, elle en est à 39. Donc déjà, on sait qu'elle va passer Futatsume bientôt. Et pour être Futatsume, il faut avoir 50 comptes, il faut avoir une recommandation, et il faut pouvoir maîtriser quand même pas mal de choses. Et là, elle veut dépasser Kaisei. Et Kaisei, c'est son grand rival qui a fait ça en 2 ans. Elle va arriver à le faire en 1 an et demi. Donc ça va être le prochain tome. Je pense que le tome 14, ça va être décisif. Et ça va être là que ça va jouer. Moi, ma conclusion, c'est que j'attends quoi pour la suite? Bah, comme j'attendais rien déjà pour les 13 premiers tomes, j'attends pas grand-chose pour le reste. Mais c'est sûr que, en fait, quand tu lis Akane Banashi, t'es pas dans un shonen, t'es dans un shonen jump qui coche toutes les cases de ce magazine, mais t'es surtout dans un beau manga où au final les sentiments et les émotions humaines sont très présents, et c'est assez cool de pouvoir lire ça, parce que je vais réitérer ma phrase que j'avais dit, je pense, au tout début, mais c'est que en fait ça fait un vent de fraîcheur qui fait du bien, aussi bien pour toi quand tu le lis que pour le monde du manga, j'ai l'impression, en général.
Ouais, non, c'est vrai, t'as raison, c'est un manga qui est vraiment, vraiment différent aussi, avec Akane Banashi. C'est signé donc Takamasa Mue et Yuki Suenaga. C'est déjà 21 tomes hein, au Japon, il y en a 7 de plus quand même. Là, il y a le 14 qui sort là au moment, la semaine d'avant, la semaine dernière. Il est sorti la semaine dernière, ouais, c'est ça, c'était le 2 avril. On n'en a pas parlé, on ne l'a pas spoilé non plus pour laisser un petit peu de temps à tout le monde de pouvoir le lire et écouter cette émission. Il y a le 15 qui est prévu pour le début du mois de juillet. Mais voilà, 21 tomes encore en cours au Japon. Ça laisse pas mal de marge pour dérouler pas mal de scénarios. À noter aussi que Akane Banashi est à tout petit prix en ce moment. Si vous voulez le tester, ça peut faire du bien aussi au porte-monnaie d'avoir un manga à 3 euros.
Bien joué.
3 euros les deux premiers tomes, puisqu'ils ont fait une nouvelle vague de manga à 3 euros. Et donc dedans, il y a Akane Banashi, tome 1 et tome 2.
Et le tome 14, il y aura une jaquette réversible exclusive à la France. Attention, mes amis.
Waouh, incroyable. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. J'ai trop encore envie de parler de Akane Banashi. J'ai encore trop envie de parler de Dans le sens du vent. J'ai encore trop envie de parler de The Bugle Call. Qu'est-ce qui va se passer avec Akira?
Est-ce qu'on a le temps pour ça, Maxime? Oui, on a la partie 2 à enregistrer, donc tu vas rentrer chez toi et te mettre à lire, s'il te plaît.
Non, bon, bah la semaine prochaine, on parlera de Tsugai, de Journey Beyond Heaven et de Full Night. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. On peut prolonger les débats sur les réseaux sociaux en étant encore plus full spoil. N'hésitez pas aussi.
Sur le Discord, mettez la balise spoil.
Ouais, et n'hésitez pas à venir discuter de tout ça avec nous. Et merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, salut.
Salut.
Salut.